Yves Layani publie Le Dompteur de mots, MAUX, comment le silence des bêtes a libéré ma parole aux éditions Robert Laffont. Célèbre vétérinaire que l'on connaît bien médiatiquement notamment, et puis parce que vous avez été. Alors vous avez été l'assistant, vous avez commencé avec le docteur Klein, comment ça s'est passé?
En fait, effectivement, quand j'ai été reçu à mon concours vétérinaire, j'ai été tout de suite rencontrer Michel Klein, parce que mon père et Michel Klein avaient un ami commun. Donc j'ai commencé comme ça dans sa clinique et. C'est ce qui m'a petit à petit amené à côtoyer de plus en plus d'animaux et donc plus en plus d'humains et donc libérer ma parole au fil du temps.
Alors des mots MOTS, homo MAUX, expliquez.
Disons quand on est muet, on ne parle pas, on ne s'exprime pas, mais on écoute, on entend les mots MOTS et tous ces mots MOTS, je les ai stockés dans ma tête et je connaissais parfaitement leur sens, leur signification, même leur usage, mais je n'utilisais pas ces mots. Et donc, petit à petit, donc, j'ai souffert de cette espèce de mutisme, puisque c'était très compliqué pour moi de réussir des examens, de passer des oraux, forcément. Et le jour où, petit à petit, grâce aux animaux, eh bien, j'ai pu parler de plus en plus aux humains, donc utiliser les mots MOTS, alors à ce moment-là, j'ai soigné mes mots MAUX liés à ce mutisme, à cette espèce de phobie sociale finalement.
Alors cette passion pour les animaux, elle est venue de ce handicap, on va dire, ou est-ce que finalement vous pensez que vous auriez eu cette même passion si vous n'aviez pas eu ce souci ?
Je pense que d'abord il y a le fruit du hasard, parce que un de mes oncles nous avait offert des petits poussins à mon frère, ma sœur et moi, et qu'un des poussins s'était cassé la patte, et qu'avec mon père on a réparé la patte du poussin. Donc c'était ma première expérience où je réalisais que des humains pouvaient arriver à porter assistance et secours à un petit animal, en l'occurrence un petit poussin. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, les animaux n'ayant pas la parole, c'était pour moi plus facile de rentrer en contact avec eux puisque je ne voulais pas utiliser la parole. Donc je sifflotais aux petits oiseaux du jardin, je les regardais tous les animaux avec beaucoup d'attention, que ce soit les poules d'eau dans un cours d'eau, que ce soit les ragondins, etc. J'avais l'impression de communiquer avec eux en étant proche d'eux par la pensée, mais pas par les mots, pas par le son. Et en tout cas pas par le son des mots. Avec le son des sifflements pour les oiseaux, oui, mais pas par le son des mots. Et petit à petit, j'ai réalisé à quel point l'humain, par la parole, avait freiné tous ses autres sens. C'est-à-dire que l'humain, maintenant, n'arrive à exprimer les choses quasiment que par les mots. Alors que quand vous regardez les animaux, ils expriment des postures liées au stress, des postures liées à la crainte, des postures liées au jeu. Ils ont des tas de comportements physiques, des comportements qu'ils se voient, sans exprimer un mot et qui pourtant signifie énormément. Donc le mot n'est pas essentiel à la communication. Ce qui est essentiel à la communication, c'est, je dirais, faire véhiculer entre les êtres vivants des messages, qu'ils soient posturaux, qu'ils soient olfactifs, si c'est des odeurs, s'ils soient énergétiques, si c'est des ondes électromagnétiques. Vous savez, quand par exemple on va s'occuper de son animal, on va le sortir, on n'a même pas bougé, on n'a rien fait, l'animal il sait qu'on va le sortir. C'est pas forcément une heure habituelle, mais il le sait. Parce que nous, quand on a eu l'idée de le sortir, avant même d'avoir bougé, notre tête a envoyé des ondes électromagnétiques dans. Et puis le chien les a captées, les a décodées, et il a compris avant même nous qu'on allait sortir. Et ces communications-là, non verbales, sont des communications qui ont beaucoup d'avenir, à mon avis, parce qu'on a trop étouffé la communication humaine par les mots. C'est assez paradoxal, surtout qu'en France, on a beaucoup de mots pour exprimer les choses. C'est assez paradoxal, mais je pense qu'on découvrira bientôt à quel point, même sans mots, notre tête est capable d'émettre des messages perceptibles par d'autres humains ou perceptibles par d'autres animaux. Par exemple, quand on parle entre humains, on dit parfois « il y a une atmosphère électrique ». On rentre dans une pièce, il y a une atmosphère électrique. Ça veut dire quoi, cette atmosphère électrique? C'est simplement qu'il y a dans l'air des ondes, des choses qu'on capte et qui nous perturbent, qui nous hérissent le poil. Eh bien, ces choses-là, c'est des choses qui, un jour, mériteraient d'être décodées et mériteraient d'être mieux interprétées par les humains.
Est-ce que souvent, les animaux ressentent?
Et ça, c'est typiquement le domaine de l'animal. L'animalité, elle est là, dans cette perception de ses petits sens. Et c'est ce qui fait que les animaux arrivent à percevoir des choses que les humains ne perçoivent plus, parce que le langage leur a fait disparaître ses perceptions.
Finalement, l'homme est peut-être un animal mal fichu.
C'est un animal qui a beaucoup évolué par la parole, et en ayant oublié certains de ses sens, c'est mal fichu, tout seul.
Merci Yves Leyani. Donc je rappelle le titre de ce livre, Le Dompteur de mots, MAUX, comment le silence des bêtes a libéré ma parole, aux éditions Michel Lafon. Et il a bien fait de la libérer, votre parole, parce qu'elle est, sinon d'or, très intéressante. Merci à vous.
Merci à vous.